Vous écoutez Radio France Internationale, 10h à Paris et à Magdebourg en Allemagne.
Jeanne Bartoli.
Et à la une de ce journal, il n'y aura pas de paralysie des administrations aux États-Unis. Un accord bipartisan a finalement été trouvé. Texte voté par le Sénat ce matin, malgré l'opposition farouche à ce texte de Donald Trump. Récit en début de journal à New York. Le profil de l'assaillant du marché de Noël de Magdebourg reste flou en Allemagne. Un médecin saoudien âgé de 50 ans qui avait obtenu l'asile a foncé dans la foule. Il y a au moins 2 morts, une 60aine de blessés. Et puis la fin de la visite du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Banjul en Gambie. Les deux voisins qui veulent continuer à développer leurs liens, notamment économiques. Nous serons à Dakar. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire évitée donc de justesse ces dernières heures après la Chambre des représentants, le Sénat, qui n'avait plus que quelques heures pour le faire, a adopté un texte bipartisan qui assure le financement de l'État fédéral jusqu'à la mi-mars. Adoption par une vaste majorité de démocrates, mais aussi de républicains, malgré les vives critiques de Donald Trump en début de semaine. À New York, le récit de Loubna Naki.
Le président élu avait ordonné aux républicains de torpiller le projet de budget bipartisan dévoilé en milieu de semaine parce qu'il voulait un texte qui relève ou supprime le plafond de la dette. Donald Trump avait ainsi appelé les membres de son parti à voter contre tout texte qui ne répondrait pas à sa demande, quitte à ce que cela mène tout droit à une paralysie budgétaire. Que le shutdown arrive sous la présidence Biden plutôt que la mienne, avait notamment écrit Donald Trump. Mais après que la Chambre a rejeté un texte soutenu par le président élu, le chef de la majorité républicaine, Mike Johnson, a décidé qu'il valait mieux éviter un shutdown. C'est donc un texte réduit, mais sans aucune mesure sur la dette qui a été adoptée hier pour assurer le budget du gouvernement jusqu'en mars 2025. Sur les 219 républicains, 170 ont voté pour. Un geste qui pourrait bien provoquer la colère de Donald Trump, qui préférait ne pas avoir à négocier le plafond de la dette une fois au pouvoir. Même si Mike Johnson a assuré avoir été en contact permanent avec Donald Trump et qu'il était, je cite, content du résultat. Loubna Naki, New York, RFI.
Et le projet de loi doit désormais être validé par le président Joe Biden. Les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Arabie Saoudite, de nombreux pays ont réagi hier à l'annonce de l'attaque survenue en Allemagne sur le marché de Noël de Magdebourg, à l'ouest de Berlin. Une voiture a foncé dans la foule où se trouvaient des familles sur plusieurs centaines de mètres. Il y a au moins 2 morts, dont un enfant, près de 70 blessés, dont une quinzaine sont en état critique. Les motivations du conducteur, un médecin saoudien de 50 ans qui avait obtenu le statut de réfugié en 2016, restent floues. La piste de l'attentat islamiste n'est pas privilégiée pour l'heure, sans être écartée. L'homme, lui, a été arrêté. L'attaque intervient à 2 mois maintenant des élections législatives anticipées en Allemagne, et alors qu'une poussée de l'AFD, le parti d'extrême droite, est attendue. Sur ce contexte électoral dans le pays, écoutez Paul Maurice, chercheur à l'IFRI, il est au micro de Nicolas Roca.
Cet attentat s'inscrit dans un contexte où l'extrême droite, qui a surfé sur la vague migratoire de 2015, sur un phénomène qui a occupé l'Allemagne une dizaine d'années, et cette extrême droite est née, si j'ose dire, politiquement de l'opposition à l'accueil des réfugiés, notamment syriens, en Allemagne en 2015. Et cet attentat intervient un jour assez important pour l'extrême droite, puisque Elon Musk, le patron de SpaceX, de Twitter, a déclaré que seule l'AFD, seule l'extrême droite, pouvait sauver l'Allemagne. Cette déclaration, associée à un attentat, qu'il soit terroriste ou non, risque de pousser encore plus l'extrême droite, et en tout cas de renforcer l'idée pour ceux qui envisageaient de voter pour ce parti, que ce parti est une solution pour l'Allemagne.
Paul Maurice, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Un cratère dans un parc de jeux pour enfants, un missile s'est écrasé à Jaffa, au sud de Tel Aviv, en plein milieu de la nuit. Les vitres des immeubles de tout le quartier ont volé en éclats. Il y a plusieurs blessés légers. L'armée israélienne reconnaît son échec dans l'interception de ce missile balistique tiré depuis le Yémen. Des vérifications sont en cours pour tenter de comprendre précisément pourquoi ce missile n'a pas été intercepté. C'est ce que souligne un communiqué communiqué de l'armée israélienne. Emmanuel Macron promet le raccordement, au moins de façon partielle, des foyers mahorais à l'eau dès aujourd'hui, après son passage à Mayotte. La priorité des priorités, c'est le combat pour l'eau potable, a dit le chef de l'État qui s'est envolé pour Djibouti hier. Il se rend désormais en Éthiopie, où il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed. Continuer à développer et à renforcer les liens, notamment économiques, entre deux voisins, le Sénégal et la Gambie. C'était l'objectif de la visite de deux jours d'Ousmane Sonko à Banjul. Visite qui s'est achevée hier. Le Premier ministre sénégalais a rencontré le président gambien, Adama Barrow, mais c'est avec le vice-président Mohamed Diallo qu'ont eu lieu les principaux échanges. Récit à Dakar avec Gwendal Lavina.
Preuve de l'importance de cette visite, une délégation d'une dizaine de ministres accompagnait Ousmane Sonko. Au programme, il y a notamment eu la réunion de la commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays. C'est la première fois depuis 2011 que le rendez-vous se tenait. L'occasion d'aborder la question du renforcement de la libre circulation des biens et des personnes entre le Sénégal et la Gambie. Et comment a expliqué le Premier ministre Ousmane Sonko?
Non pas forcément sous forme de confédération, mais que toutes les barrières et toutes les limites que nous imposons nous-mêmes dans le cadre de cette relation soient levées, de sorte que ce que tout le monde dit et a toujours dit, que le Sénégal et la Gambie sont un seul et même pays, que cela soit matérialisé concrètement dans les faits, dans les textes qui nous régissent. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie.
Une vision partagée par le vice-président gambien Mohamed Diallo qui se réjouit de cette rencontre.
Notre structure de gouvernance repose sur cette commission et il est important de lui redonner du souffle afin de renforcer davantage les échanges commerciaux entre nos deux pays.
Les deux dirigeants ont d'ailleurs ensuite co-présidé la deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien. À cette occasion, Ousmane Sonko a dit espérer porter prochainement leurs échanges commerciaux à 500 milliards de francs CFA contre 117 milliards l'année dernière. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Dans l'actualité également, la composition du gouvernement qui devrait être dévoilée dans les prochains jours en France avec une question, la droite va-t-elle en être? Les Républicains souhaitent en particulier conserver le très conservateur Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau qui a fait de l'immigration. Sa priorité, justement, un sommet se tient sur la question. En Laponie aujourd'hui, les chefs de gouvernement finlandais, grecs, suédois et italiens se retrouvent ce week-end. Tous partagent la même vision restrictive de l'immigration. Carlotta Morteo.
C'est dans une station de ski au fin fond de la Laponie que se tiendra un mini-sommet en toute confidentialité pour trouver, je cite, des idées, de nouvelles initiatives. C'est ainsi que le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, à la tête d'une coalition incluant le parti d'extrême droite et qui veut réduire drastiquement l'immigration, a présenté ces réunions qui auront lieu non loin d'un poste frontalier où l'hiver dernier avaient afflué des centaines de migrants depuis la Russie. Une opération de déstabilisation orchestrée par les autorités russes, selon Helsinki, qui a donc fermé ses 1340 km de frontières et a commencé à ériger un mur de barbelés. La Finlande épouse la vision de l'Italie et de la Grèce, les portes d'entrée en Europe pour les réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient, deux pays également gouvernés par des formations nationalistes ou anti-immigration qui sont favorables notamment à la création de centres de renvoi à l'extérieur des frontières de l'UE sur le modèle de ce que teste l'Italie en Albanie. Une idée qui intéresse beaucoup les pays nordiques, la Suède, le Danemark et la Norvège également. La chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas sera de la partie, sachant que l'UE doit proposer début 2025 un plan pour faciliter les rapatriements d'immigrés sans papier.
Carlotta Morteo, enfin, il s'attache dans son nouveau film Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft, un couple de chercheurs volcanologues, les Kraft. Le réalisateur Werner Herzog livre un film documentaire sur leur vie. Elisabeth Le Quéré.
C'est à un couple de légende que Werner Herzog rend hommage dans son nouveau film. Sur les photos, leur bonnet rouge leur donne des airs de lutins défiant coulées de lave, cratères de cendres et de fumée. Au grand spectacle des volcans, Katia et Maurice Kraft avaient pris un abonnement à vie. 25 ans d'assiduité, 175 éruptions guettées, filmées et photographiées pour mieux partager leur passion.
J'ai vu tellement d'éruptions en 23 ans. Même si je meurs demain, je m'en fous.
31 ans après leur disparition en 91 au Japon lors d'une éruption du mont Hunzen, le réalisateur s'empare de leurs archives proposant un montage du film ultime qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser. On connaît les moteurs de l'imagination d'Herzog, entre autres sa conscience aiguë de l'insignifiance de l'humain face au cosmos. Cette énigme en tête, il compose ici un poème lyrique aux images inoubliables.
Elisabeth Lequeret, vous restez avec nous tout de suite, ces grands reportages.